J'ose imaginer que de nombreuses stars ont voyagé avec le Léman Express. La seule dernière en date qui nous a été rapportée par des agents qui l'ont vu en fait dans le train entre Annemasse et Vian, c'est un célèbre rappeur français des années 90.
Les CFF vous souhaitent la bienvenue et un agréable voyage dans leur podcast.
Si les trains des CFF circulent essentiellement à l'intérieur du pays, en Suisse, on en trouve quand même qui circulent à l'étranger et qui passent les frontières tous les jours. On en voit à Paris, on en voit à Marseille, on en voit à Milan. On en voit aussi plus près de nous à Annemasse, à Annecy ou encore à Évian-les-Bains. Ce sont les trains du Léman Express. Pour découvrir les recettes de fabrication du Léman Express, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des CFF qui parle des coulisses et des chemins de fer suisses. Je m'appelle Jean-Philippe Schmitt et je suis aujourd'hui avec Manuel Dalmolin, qui est directeur général de Lemanis. Manuel Dalmolin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Lemanis, qui est en fin de compte la société qui est une filiale des CFF et de la SNCF, qui exploite ce célèbre Léman Express. Si on veut définir en trois mots, est-ce que vous avez à me dire comment est-ce que vous définiriez le Léman Express ?
Alors, on pourrait en utiliser bien plus de qualificatifs, mais les trois qui me viennent, c'est unique, utile et plébiscité. Voilà, ce sont les trois mots pour moi qui caractérisent le plus cette offre du Léman Express.
Unique, pourquoi ?
Unique, par sa dimension transfrontalière, un des plus grands réseaux RER transfrontaliers d'Europe. Utile parce qu'il répond effectivement à de nombreux usages, de nombreux besoins. Et puis plébiscité, on y viendra sans doute tout à l'heure, compte tenu de la fréquentation galopante qu'on constate dans les trains depuis sa mise en service.
C'est vrai qu'on a toujours parlé du plus grand RER transfrontalier d'Europe. Est-ce que vous avez quelques chiffres un peu pour nous donner un peu une impression de ce que ça représente ?
Alors effectivement, dans sa dimension, le Léman Express, ce sont 240 km d'infrastructures ferroviaires qui sont utilisées, 45 gares desservies. Le réseau est constitué de 7 lignes sur lesquelles on voit circuler chaque jour plus de 260 trains en semaine. Donc voilà, ça donne un peu la dimension effectivement de cette offre du Léman Express, une offre qui depuis peu circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui le rend le plus grand effectivement RER et dans sa dimension également quotidienne et permanente.
En gros, si on prend comme centre Genève, pour ceux qui ne connaissent pas le Léman Express, je dirais que le nœud, c'est Genève. Jusqu'où est-ce qu'elles vont les étoiles de ce réseau ?
Donc effectivement, le cœur du réseau, il se situe entre Copé et Annemasse, de par l'infrastructure qui a été créée pour pouvoir le réaliser. On y reviendra également certainement. Mais on va dire les bouts de ligne qui constituent les limites du périmètre du Léman Express. On a Copé, qui se situe dans le canton de Vaud. On a Bellegarde, en France. Et en France, on trouve également Évian-les-Bains, Saint-Gervais les Bains et Annecy. Donc chacune de ces lignes, depuis Évian, Annecy et Saint-Gervais, convergent vers Annemasse et c'est là effectivement qu'on a le Léman Express qui se déploie dans toute sa totalité de l'offre au cœur du réseau.
Et en nombre de voyageurs, combien est-ce qu'on...
Donc les voyageurs, en fait, aujourd'hui, on a battu un nouveau record. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'était en novembre passé, puisqu'on a atteint la barre symbolique des 80 000 voyageurs jour en semaine. On a eu de cesse de battre des records depuis fin 2021. C'est un RER qui était très largement plébiscité et qui ne cesse effectivement de progresser. Donc c'était ce qui témoigne effectivement de son succès et de l'utilité que j'évoquais tout à l'heure.
C'est encore un jeune RER, il n'a pas 200 ans, ça fait combien de temps que le Léman Express existe ?
Il n'a pas tout à fait 200 ans, effectivement. Donc le Léman Express, il a 6 ans d'existence, il a été mis en service fin 2019. Mais dans sa dimension qu'on connaît aujourd'hui, il y avait quelques brides avant, effectivement, de relations ferroviaires internationales, je dirais franco-suisses, par le passé. Mais voilà, il a bien seulement 6 ans, donc il est encore jeune. Voilà.
Mais c'est un peu la question, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Comment est-ce que faisaient les 80 000 personnes par jour pour se déplacer ? Quelle est un peu l'histoire de ce succès ?
En fait, je dirais la plupart des clients pour se déplacer avant utilisaient majoritairement la voiture puisqu'il n'y avait pas d'alternative, en fait, notamment pour la dimension transfrontalière. Donc avant, on avait quelques trains qui, depuis Annemasse, desservaient Genève-aux-Vives en surface. Donc c'était une offre assurée par la SNCF est contractualisé avec le canton de Genève. Et puis, côté Suisse, les trains RER s'arrêtaient à Lancy-Pont-Rouge, donc étaient vraiment circonscrits au périmètre suisse, et ce qui fait qu'il manquait un maillon entre Lancy-Pont-Rouge et Genève-aux-Vives pour pouvoir, en fait, effectivement, déployer une offre de bout en bout.
Et comment ça a commencé, cette histoire? Ça a commencé il y a longtemps, je crois, quand même.
Effectivement, donc je ne disais pas tout à fait 200 ans, puisque en fait, la ligne entre Annemasse et Genève-Eaux-Vives a été inaugurée en 1888, donc ça ne fait pas tout à fait 200 ans. C'est que dans l'histoire récente, finalement, que l'ambition politique partagée franco-suisse, dans le but aussi de pouvoir accélérer et gommer l'effet frontière, s'est traduit par une accélération du projet dans les années 90, 90, pour un démarrage des travaux qui est intervenu fin 2021 et une mise en service fin 2019. Des travaux conséquents, puisqu'il a fallu créer 7 km de tunnels sous la ville, donc on parle évidemment de Genève et de ses communes voisines, et puis 5 nouvelles gares nouvellement desservies par le Léman Express. Donc c'était des travaux conséquents, et c'est grâce à ces travaux, ces investissements colossaux, que le RER et le Léman Express a pu se déployer.
D'accord. Le podcast des CFF, généralement, ça permet d'entrer dans les coulisses des chemins de fer. Ici, j'ai un petit peu envie qu'on entre un peu dans la coulisse, dans la cuisine même de ce Léman Express. Comment est-ce que vous, en tant que grand cuisinier quelque part, vous avez élaboré cette recette du Léman Express?
Alors déjà, je vais faire preuve d'un peu d'humilité, parce que c'était pas moi le chef. Je faisais seulement partie de la brigade, puisque je suis arrivé au CFF il y a 15 ans déjà, mobilisé sur le projet dans la définition de l'offre. Donc effectivement, c'est une recette qui s'écrit sur 600 pages. Hein. Donc c'est une recette conséquence avec de nombreux ingrédients, mais je vous passe tous les ingrédients et je vais peut-être me concentrer sur les 4 ingrédients principaux. Le premier, c'est 3,5 milliards de finances solides pour justement permettre à l'infrastructure d'être créée, développée, pour permettre au matériel roulant aussi nécessaire pour pouvoir rouler d'être acquis. Ce sont 40 rames, plus d'un demi-milliard qui a été investi par la région Auvergne-Rhône-Alpes côté français et puis par les CFF avec le soutien des commanditaires côté suisse. Et puis, la valorisation des emprises foncières autour des gares que les CFF aussi ont entrepris, tout ça représente le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, ce sont des centaines de ressources humaines qualifiées. L'expertise CFF-SNCF a très largement été mobilisée autour de ce projet pour pouvoir en fait aller au bout et pouvoir mettre à disposition les ressources nécessaires, que ce soit des chefs de projet jusqu'aux agents roulants. Donc ça, c'était évidemment un ingrédient essentiel pour permettre au Léman Express d'être mis en service. Le troisième, c'est un concentré de technologies de pointe. Je reviens notamment sur le matériel roulant, un matériel roulant qui a dû être adapté pour pouvoir circuler sur 2 réseaux avec des spécifications différentes. Je passerai les détails techniques, mais le système de sécurité est différent, le courant de traction est différent et tout ça doit être opéré par un matériel roulant sans finalement rupture pour le client. Donc ce qui a été le cas. Et puis enfin, le dernier ingrédient important, un choc d'offres. Le Léman Express qu'on connaît aujourd'hui et qui fonctionne à travers les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi le résultat d'un soutien extraordinaire des commanditaires. Je prends l'exemple notamment de la partie suisse, avec les co-commanditaires côté suisse qui ont financé un doublement de l'offre d'ici à la mise en service du Léman Express. Donc ça, c'est effectivement un élément très important.
Donc si je résume, c'est de l'argent, des gens, des trains et des horaires. On Exactement. Mélange tout ça, on met ça dans une cuisine et tout. Et puis, quelques années plus tard, en 2020, c'est juste, hein,
fin 2019, oui, tout à fait.
Fin 2019, naît ouais. Sort du four, en fin de compte, ce Léman Express Exactement. Tout neuf et tout beau. C'était peut-être pas tout simple, ou bien, parce que ça a l'air tout simple de mélanger tout ça, mais j'imagine qu'il y a des moments où c'est comme oui, les œufs et le sel, il y a des choses qui ne vont pas forcément toujours très bien ensemble. Ça s'est bien passé?
Alors, je vous rassure, ça n'a pas été cauchemar en cuisine, mais effectivement, j'ai quelques anecdotes ou en tout cas quelques points qui ont représenté des défis au démarrage. Le premier, c'est que, pour rester sur la métaphore culinaire, la brigade en fait était constituée de personnels internationaux, donc on avait des Français, des Suisses notamment, et donc il a fallu parler la même langue, harmoniser les pratiques, et ça a représenté effectivement un premier défi. Le second défi, il a été aussi de pouvoir mettre à disposition cette nouvelle recette et ce plat sans avoir pu le goûter, le tester en amont. Je passerai les détails, mais effectivement, on a été contraint avant la mise en service de ne pas pouvoir en fait le tester grandeur nature. Et enfin, à la mise en service, il nous a manqué quelques ingrédients, ou quelques ingrédients, effectivement, réagissaient pas forcément très bien.
Lesquels ?
Je passerai les détails pour ne froisser personne, mais effectivement, quelques ingrédients ont manqué. Et puis surtout, l'élément principal, c'est que la chaîne de restaurants a dû partiellement fermer à cause du Covid. Donc, pour sortir de la métaphore, effectivement, en raison des contraintes sanitaires, on n'a pas pu déployer l'offre nominale telle qu'elle était envisagée à partir du mois de mars, suivant la mise en service du Léman Express et pendant de nombreux mois, ce qui effectivement a retardé finalement sa mise en service pleine et entière.
D'accord, mais depuis là, c'est vraiment un succès, c'est-à-dire qu'on a vraiment une augmentation du nombre de voyageurs sans arrêt, en fin de compte.
Exactement. Donc, en fait, ce qui était surprenant les premiers jours, quand on prenait le train, effectivement, c'était de voir des clients avec le sourire en nombre, comme s'ils avaient toujours goûté finalement au Léman Express. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé collectivement de 50 000 voyageurs jour avec 2 années d'avance, fin 2021. Et comme je le disais précédemment, on a eu de cesse chaque année d'atteindre des niveaux records pour le dernier que j'évoquais, effectivement, des 80 000 voyageurs jour en semaine. On a globalement donc une clientèle en nombre, en progression, globalement satisfaite. On a un NPS qui mesure la satisfaction des clients qui se situe entre 10 et 20, ce qui fait qu'on a plus de promoteurs que de détracteurs du Léman Express. Donc ça, c'est extrêmement positif et on en est très reconnaissant. Et puis enfin, le dernier indicateur que je donnerais pour qualifier effectivement la fréquentation, c'est la fidélité, puisqu'on a 45% de nos clients aujourd'hui qui ont été mesurés lors de notre dernière enquête, qui sont clients du Léman Express depuis plus de 4 ans. Donc ça, c'est effectivement le témoignage d'une confiance aussi accordée des clients vis-à-vis du Léman Express.
Donc non seulement le plat est réussi, mais en plus il est bien référencé dans les guides, si j'ai bien compris.
Tout à fait,
je propose qu'on fasse une petite pause dans la discussion pour écouter quelques-uns de nos collègues, pour savoir un petit peu. J'ai interviewé 3 collègues qui, eux, vont, un peu comme le Léman Express, passent quotidiennement à la frontière pour aller à l'étranger. Je vous propose qu'on les écoute.
Bonjour depuis Annemasse. Je suis Cédric Echenard, mécanicien de locomotive du dépôt de Genève depuis bientôt 30 ans. Et je traverse très souvent les frontières à Pougny-Chancy et à Ambilly dans le cadre de mes activités de roulement de mécanicien.
Il y a des différences entre la Suisse et la France quand on conduit un train ?
Alors tout à fait. Au niveau de la conduite, la philosophie est totalement différente au niveau de la perception des signaux, la réaction à avoir et puis l'identification des signaux aussi. Et au niveau matériel roulant, nos véhicules sont complètement différents, donc ça amène heureusement de la variété dans la conduite, d'avoir actuellement 4 véhicules ferroviaires différents qui viennent dans le secteur d'Annemasse.
Vous n'êtes pas un peu frustré d'aller seulement jusqu'à Annemasse pour y aller, je ne sais pas moi, jusqu'à Marseille ou plus loin ?
Alors tout à fait, moi j'aimerais bien déjà d'aller à Évian quand on fait les L1, Copé, Annemasse, Évian, Marseille, TGV ou même Paris, oui, ce serait génial. J'espère que ça se fera une fois.
Eh bien, bonjour depuis Domodossola. Je m'appelle Yann Giuliani. Je suis chef assistance clientèle CFF à Genève.
Vous faites partie des agents de train qui vont jusqu'en Italie.
Exactement. En fait, la spécialité qu'on a, c'est qu'on va jusqu'à Domodossola. Seulement Domodossola, c'est le seul endroit où tous les assistants clientèle, les chefs assistants clientèle vont en Italie. On ne va pas plus loin. On accompagne les Eurocity qui vont, eux, jusqu'à Milan, jusqu'à Venise. Et on a cette chance de les accompagner, mais seulement jusqu'à Domodossola. La particularité, c'est que les gens qui ont, par exemple, depuis Genève, un abonnement général, peuvent aller jusqu'à Domodossola, qui est en Italie, mais qui est considéré au niveau ferroviaire comme les CFF. Et encore mieux, depuis Domodossola, on peut prendre le Cento Valley, qui est une vallée en Italie, pour aller jusqu'à Locarno, également avec l'abonnement général.
Et à Domodossola, qu'est-ce qui se passe ? Alors vous avez vos collègues italiens qui arrivent et vous discutez avec eux ?
Exactement. Alors on remet ce qu'on appelle remettre le train. On leur explique ce qu'il y a comme problème ou pas, qu'est-ce qui fonctionne dans le train. Et une fois que c'est fait, eux, ils reprennent le train et nous allons boire un petit café quelque part à Domodossola, où il y a plein d'endroits très, très sympathiques.
Justement, un endroit que vous pouvez recommander aux clients qui sont entre deux trains, pour l'apéro par exemple, à Domodossola.
Alors l'apéro sans alcool, bien évidemment, le Divine Porcello, qui se trouve sur la place du marché, qui est vraiment très très sympa. Mais globalement, à Domodossola, les commerçants sont très sympathiques.
Bien, bonjour depuis Paris, je suis Sébastien. Ça fait bientôt 15 ans que je suis entre la Suisse et Paris à bord des TGV Lyria. Et je représente les CFF donc à bord de Lyria.
Sébastien, vous êtes un des collègues CFF qui va le plus loin en Europe, jusqu'à Paris, voire jusqu'à Marseille. C'est différent, comment ça se passe? Est-ce que les clients sont surpris aussi de voir des collègues suisses à Marseille, en gare de Marseille ou en gare de Paris?
Alors c'est un peu différent parce qu'on a plus de temps à bord, mais je crois qu'au tout début, ils étaient peut-être surpris de voir deux agents, pas les mêmes uniformes. Mais aujourd'hui, avec Lyria, c'est rentré dans les mœurs, on va dire. Et non, tout ça, ça se passe bien. Et ils sont surtout très contents de nous voir quand il y a des perturbations, parce qu'on est là dans le sens France-Suisse, pour gérer les correspondances et tout ça. Donc généralement, ils reconnaissent tout de suite l'uniforme. Ils disent « Ah, s'il vous plaît, ma correspondance !» C'est surtout dans ces moments-là qu'on est vraiment le plus à bord, quoi. Qu'on est le visage des CFF.
Qu'est-ce qu'on a comme type de clientèle qui traverse la frontière, en fait?
Alors, ça dépend des axes. Je dirais entre Genève et Paris, c'est plutôt clientèle affaires, vraiment. D'ailleurs, on a un train toutes les deux heures. C'est ce qui marche très, très fort. Sur Lausanne, ça sera peut-être Lausanne-Paris. Ça sera plus la famille qui va découvrir Paris. On le voit notamment quand il y a les grands week-ends ou les vacances. Là, c'est vraiment... Et puis ça vient de beaucoup plus loin. Le Valais, depuis le Nord-Vaudois. On a vraiment un grand bassin de population. Sur Genève-Paris, c'est vraiment très concentré, affaires, et puis des gens qui viennent travailler en Suisse depuis Paris, tout simplement. C'est bien pour ça qu'on a, même en fin de semaine, des doublures de rames, enfin des duplex, tout. Et ça marche très fort.
J'ai même entendu dire que parfois, il y avait des stars qui prenaient le TGV lyrien.
Alors oui, il y a de temps en temps des stars. Alors mes collègues français aiment bien faire des selfies ou des demandes de signature. Moi, je suis un peu plus réservé là-dessus. Je suis vraiment un peu suisse. Oui, on a des chanteurs, on a des comédiens et voilà, qui viennent en Suisse ou qui repartent sur Paris.
Des noms, deux ou trois noms comme ça de stars que vous avez rencontrés ou à qui vous avez peut-être pu discuter mais à la Suisse.
Alors, il y avait à un moment donné, on avait Charles Aznavour avec son fils hein, qui fréquentait beaucoup la ligne. J'ai eu Jean-Luc Petit-Renaud qui était chroniqueur pour des émissions culinaires et qui aimait beaucoup la Suisse parce qu'il y était venu. Et donc, on a pu discuter ensemble. Et il m'avait dit, je vous chante la Marseillaise si vous me trouvez du vin blanc vaudois. Donc, voilà. Mais je n'avais pas trouvé de vin blanc. Mais autrement, oui, des stars. Et voilà.
Et les stars ont toujours leurs billets avec elles.
Oui, ils ont toujours leurs billets. Mais des fois, ils croient qu'on les reconnaît et qu'on va laisser passer. Notamment, une star qui m'a dit, mais enfin, je suis telle et telle. Et j'ai dit, oui, mais il faudra quand même présenter votre carte de réduction. Et la pauvre, elle s'était fait un peu griller elle-même parce que personne ne l'avait reconnue dans la voiture. Donc, pour finir, elle m'a montré sa carte de réduction.
Manuel Dalmolin, directeur de l'Emanis, vous avez aussi des stars, à votre avis, qui prennent le Léman Express?
Alors, moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. J'ose imaginer que de nombreuses stars ont voyagé avec le Léman Express. La seule dernière en date qui nous a été rapportée par des agents qui l'ont constaté, qui l'ont vu, en fait, dans le train entre Annemasse et Vian, c'est un célèbre rappeur français des années 90, voilà, donc, et qui porte bien son nom. Donc, voilà, je vous laisse deviner, mais vous l'avez trouvé.
Un nom de star.
Un nom de star, oui, exactement.
On a compris, d'accord. On a parlé justement de collègues qui allaient jusqu'à Marseille, jusqu'à Paris. Vous, c'est quoi votre destination rêvée en Europe?
Alors moi, mes destinations rêvées, c'est deux capitales que j'ai visitées dernièrement et que je trouve juste extraordinaires, c'est Londres et Berlin. Voilà, donc ce seraient mes destinations rêvées en train, effectivement.
C'est vrai que c'est des destinations dont on parle beaucoup. D'ailleurs, les CFF réfléchissent aussi à une destination comme celle de Londres, tandis que Berlin, on a des trains qui vont depuis peu de temps, depuis le Valais, directement jusqu'à Berlin. Peut-être encore une question sur le Léman Express. On a toujours l'impression que quand on parle de RER, Réseau Express, c'est des trains pour les pendulaires. Mais en fin de compte, est-ce que c'est aussi un train pour les loisirs?
Alors effectivement, je pense que c'est utile de le préciser. 35% de notre clientèle voyage pour un motif loisir, donc ce qui représente une part non négligeable. C'est clairement en fait une cible qu'on entend développer. Hein. Ça fait partie aussi de nos enjeux en termes d'offensive en matière de communication, de partenariat. Donc on entend effectivement accroître cette part, ne serait-ce que parce qu'effectivement on dessert une zone qui est juste extraordinaire avec des potentialités énormes. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que aux heures en dehors des heures de pointe, on a encore de la capacité disponible et donc on est en capacité de pouvoir transporter plus de voyageurs. Donc voilà, en réunissant les deux, on arrive effectivement à pouvoir à trouver un scénario gagnant-gagnant. Donc ça se traduit par des partenariats, notamment avec les acteurs de la montagne. On a des partenariats avec Saint-Gervais, avec les Carreaux côté français. Et puis le deuxième élément que j'aimerais citer, c'est l'introduction d'une nouvelle ligne depuis le dernier changement horaire, la L7, qui dessert depuis Annemasse nouvellement l'aéroport en direct sans passer par Genève Cornamin, qui a un temps de parcours extrêmement compétitif, donc tôt le matin et tard le soir, qui permet d'attraper les premiers vols et de relever les derniers vols. Et donc là, ça ouvre finalement le Le Mans Express dans une dimension internationale, je dirais. Voilà.
Si, peut-être pour terminer, si vous avez deux destinations du Le Mans Express pour les romans qui nous écoutent, qui ont envie de faire une balade ce week-end, qu'est-ce que vous pourriez proposer ?
Alors bah, évidemment, je proposerai Annecy, la petite Venise, côté français, qui est une ville magnifique. Donc ça, ce serait peut-être la première destination que je préconiserais depuis la Suisse en direction de la France. Et puis évidemment, bah, la vallée Blanche, aujourd'hui, hein, puisqu'elle porte bien son nom, voilà, en direction de Saint-Gervais, où là, effectivement, vous avez un accès à la montagne multiple et donc une richesse aussi de paysages à découvrir et d'activités.
Manuel Dallon, on pourrait encore parler pendant longtemps du Le Mans Express, de ses développements, de ce qui s'y passe. Et puis, on pourrait aussi parler longtemps encore des développements des chemins de fer à l'étranger, des destinations que nous rejoindrons bientôt. Mais il est temps maintenant de terminer ce podcast en français. Merci de l'avoir écouté. Merci, Manuel Dallon, d'avoir participé.
Je vous remercie. Bon appétit avec Le Mans Express.
Oui, c'était une recette intéressante. J'espère qu'on pourra aussi peut-être la faire ailleurs, en fin de compte, la développer à d'autres endroits de l'Europe. Si le sujet vous intéresse, vous avez des possibilités de vous renseigner sur notre site internet, sur notre portail CFF News. Si vous avez une question ou un commentaire sur ce podcast, vous pouvez l'écrire à podcast@cff.ch. Et puis, n'oubliez pas que le train, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour voyager. À bientôt sur nos lignes.
Ce podcast est arrivé à son terme. Nous vous prions de bien vouloir descendre. Au revoir et à bientôt.